question m'est posée tous les jours, chers amis. Tous les jours, j'ai à me poser cette question. Suis-je capable de pardonner? Car tous les jours, je suis face à une situation où je dois pardonner. Ou bien demander pardon. Je suis en situation d'empêchement, de péché augmenté. Et je pêche. Je tombe. Et je me relève. Certes, guidé par ce grand pardon, mais parfois, il y a des petits soucis de la vie qui font que j'oublie ce qui m'a été donné comme grâce, ce qui m'a été amené à vivre, à me libérer et à rentrer dans ce chemin du bonheur. Voilà, je glisse. Comme on dit, voilà, le chemin est droit, mais avec des courbes quand même. Ce n'est pas une façon idyllique des choses, hein, de dire « je pardonne, c'est fort, je suis un héros », etc. C'est un processus que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris de différentes manières à le vivre. Dans Matthieu, chapitre 6, il dit « si tu ne pardonnes pas à ton frère, bah, ton frère ne te pardonnera pas ». Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, vous ne serez pas pardonné. Dans la prière du Notre Père, pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Chemin difficile, sinueux, compliqué, mais chemin obligatoire pour être en paix. En paix avec soi-même et en paix avec les autres. Vous avez certainement des situations personnelles où vous êtes confronté à demander pardon ou à accorder un pardon. Vous cherchez comment faire. Vous cherchez des solutions spirituelles, psychologiques, de l'appui, du soutien. Et on n'y arrive pas. Et on se pose plein de questions. Pourquoi je n'arrive pas à demander pardon? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner? Et pourtant, j'ai le désir. Je le sens bien ancré en moi. Il est là. Il me hante. Il me titille. Je n'y arrive pas. Comment faire? Et si, en cette séance, on arrive à peut-être réfléchir ensemble, trouver des pistes, chercher, se questionner, peut-être qu'ensemble, on trouvera des faisceaux de lumière, quelques réponses, ou des débuts de réponses. Je vous invite à prendre une minute comme ça, ou deux. On réfléchit à l'une de ces situations où je n'arrive pas à demander pardon, où je n'arrive pas à pardonner, et de savoir qu'est-ce qu'il y a. En tout cas, de vraiment regarder qu'est-ce qui m'empêche de le faire. C'est quoi? Posez la question librement, en nous. Anne, tu dis, je suis en procédure. Donc, je ne peux pas pardonner tant que la procédure n'est pas terminée et que je n'ai pas eu justice. Alors, Jean-Paul II, quand il y a eu les attentats du 11 septembre 2001, c'était le choc des civilisations, la haine qui déferlait, les guerres de religion, c'était terrible. Et on lui pose la question sur ce qu'il pensait, lui, de tout cela. Et il répond cette phrase que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de paix sans justice. Vous connaissez la suite? Il n'y a pas de justice sans pardon. n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. Il y a la réparation. Et c'est juste. Et Dieu est juste. C'est le juste. C'est un des attributs de Dieu, c'est qu'il soit juste. C'est le seul qui ne peut pas être injuste. Donc, procédure ou pas, ne doit pas nous empêcher de dire, moi, je pardonne, mais, je ne suis pas encore prêt à la réconciliation. Car pardon ne veut pas toujours dire réconciliation. Ce n'est pas parce que j'ai pardonné quelqu'un que je suis obligé d'aller boire une bière avec lui tous les jours. Il y a des gens qui sont toxiques, nocifs, qui ont des comportements mauvais. Je ne peux pas dire que quelqu'un est mauvais. Pour moi, nous sommes tous bons. Mais on a des comportements mauvais qui nous empêchent d'être bons. Donc ce pardon peut me donner à moi un peu de la hauteur, un peu du recul, un peu de protection pour que cela ne me fasse pas mal, comme disait Sabrina. Ça me heurte à chaque fois que j'y pense, ça me fait du mal, ça me fait souffrir. D'abord, je me protège moi-même de ce mal qui m'est causé par cette procédure, par cette personne, par sa mémoire, etc. Donc je suis dedans tout le temps quand je vais être en mode combat, corps à corps, et je suis là, je vais faire les affaires. Bien. Bah, s'il y a une procédure, il y a une justice. Donc je prends petit à petit du recul et je change mon regard vis-à-vis de la personne. Comment cela peut-il se faire ? Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. C'est vrai que c'est compliqué. Un jour, en faisant un témoignage, j'ai parlé de cela, quelqu'un a posé la question, le prêtre qui était là m'avait donné la réponse, ce que je séchais à l'époque, je ne savais pas quoi dire. Et c'est vrai, comment cela est possible ? Il y a la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Pour que la paix soit juste et que ce soit un pardon donné pour rentrer dans cette paix-là. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de pardon. Donc, si j'ai envie d'être en paix, c'est la clé essentielle, comme c'est le titre de cet atelier, clé essentielle pour rentrer dans cette paix, c'est le pardon. Et je dis bien, ça ne veut pas dire que j'ai réglé tous les problèmes et que tout est effacé. Le Christ, dans sa résurrection, il a montré ses plaies. Il a été crucifié, mort, sur la croix. Flagellé, torturé, crucifié. Il est ressuscité avec ses plaies. Le pardon nous permet de transcender la souffrance. De porter au-delà cet amour qu'on a pour Dieu, qui nous permet d'aller au-delà et dire « Je te l'offre, cette souffrance. Je te l'offre. Avec tes plaies, avec ta souffrance que tu as offert pour le monde, le rédempteur. Bon, oui. Il y a réparation. Il faut qu'il y ait réparation. Oui, il faut quand il y a un mal qui est subi et qui est caractérisé, bon, on peut demander justice. Il n'y a pas de problème. Jésus, quand il est venu sur terre, il a accepté la justice des hommes, même celle qui était injuste. Le bon larron a dit, lui n'a rien fait. Nous, on mérite ce qu'on a fait, ce pourquoi nous sommes crucifiés. Mais lui, il n'a rien fait. Et pourtant, il était sur la croix. Je ne suis pas sûr que nous pouvons obtenir une justice juste à 100% par les hommes. Bah, peut être réparé un peu, etc. Mais si je compte que sur les hommes, on fait des guerres. Parce qu'on veut prendre et faire justice nous-mêmes et rendre un petit peu coup par coup, œil pour œil, dent pour dent, ça crée des guerres. Ça crée des conflits, ça crée des jalousies, ça crée des destructions. Oui, c'est depuis le début de l'humanité qu'Abel et Abel, oui. Suis-je le gardien de mon frère ? Oui, tu es le gardien de ton frère. et tu as atteint la vie de ton frère. Tu n'avais pas le droit. Tu ne tueras point. Il leur a redit par 10 commandements. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages. Et pourtant, même en observant tout cela, voyez, le jeune homme riche, qui est dans cette parabole de Luc, où il nous explique, aussi Matthieu, hein, que l'homme était juste, ce jeune homme était juste, il observait tous les commandements de Dieu, et pourtant il n'était pas heureux parce qu'il lui manquait la charité. Donc ce pardon, oui, je peux le donner à quelqu'un avec qui je suis en conflit, à quelqu'un qui me fait du mal, etc., mais tout en me protégeant aussi de lui. Prendre mes distances. Prendre de la hauteur. Je vais me confesser. Je ne m'attends pas à ce que le bon Dieu me donne des conditions avant de me donner. Oui, me demande. Si je me confesse, je dis je ne veux plus pécher. A priori, je ne veux plus. Et je demande la grâce de pouvoir tenir dans mes désirs, dans mes décisions, dans mes volontés. Et dans mes résolutions. Je veux tenir. Et bien, si je n'y arrive pas, je reviens. Combien de fois? 70 fois, 7 fois, tu pardonnes. Il ne s'en lasse pas, Jésus. Il est patient. Reviens. Tant que tu as envie d'avancer, reviens, je suis là, je te donne. Tu tombes, tu reviens. Mais tu as toujours ce désir d'aller de l'avant et je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Je prends un exemple commun. Un enfant fauché par une voiture, un chauffard qui a disparu. J'ai eu un cas comme ça, un jour, discuté avec un papa qui n'arrivait pas à pardonner. En plus, il ne connaît pas la personne, il ne sait même pas qui c'est. C'est même plus que déni, il ne sait même pas qui c'est. Le travail a été fait, et il a réussi. Par l'amour de son fils qui était devenu handicapé. Et si je me permets, Charlotte, c'est ce regard que vous avez vis-à-vis de vous-même. Je l'écris dans mon livre, je l'ai écrit, et je raconte cette histoire quand, après mon chemin de pardon, de bonheur, et tout se passe bien, Fouad qui témoigne, qui va à droite, à gauche, tout ça, il restait un point noir, quelque chose qui clochait. Je suis allé faire une retraite. Une parmi plusieurs retraites que j'avais suivies, où je cherchais un peu ce qui n'allait pas vraiment. Et je tombe sur ce commandement, je suis ton Dieu, tu n'aimeras que moi, etc. Machin. Tu m'aimeras de tout ton être, de tout ton corps, de tout ton esprit. Fort. Il y a un autre commandement, Jésus dit, qui est aussi grand que celui-là. C'est le plus grand de commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de tout ton esprit, de tout ton corps. Tout entier. Cet amour doit être plein. À Dieu. Et puis un autre. Aussi grand, aime ton prochain comme. Waouh. Aime ton prochain comme toi-même. Je me regarde dans la glace, bon, je voyais rien même. Je me dis, mais mince, Fouad, en fait, tu ne t'aimes pas. Finalement, l'aveugle qu'il y a en toi, tu ne l'aimes pas. Tu l'as accepté, tu l'as dompté, tu l'as intégré. Parfois même tu l'utilises, ouais, super, génial. Les conférences, les témoignages, le pardon, c'est génial. Mais cet aveugle-là, est-ce que tu le regardes un peu? Tu en prends soin un peu? Tu entends de quoi il a besoin? Ses désirs, sa souffrance? Qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Tu le traînes avec toi, tout ça, bien coiffé, tout ça, c'est génial. L'aveugle réussi, chef d'entreprise, tout ça, ça va. Mais le pauvre aveugle là qui n'arrive pas à trouver le tube dentifrice le matin dans sa salle de bain, machin, hein ? Est-ce que sa femme l'a mis dans le frigo ? Tu vas toujours à contresens de ce qu'il est, de ce qu'il veut être, de comment il est. Aime ton prochain comme toi-même. Et là, j'ai eu cet évangile de l'aveugle de Jéricho. Bon, c'est facile, c'est un aveugle, donc je peux... Mais cet aveugle-là, mendiant, au bord du chemin, pauvre, mendiant, au bord du chemin, mais qui a reconnu le Christ, qui le supplie, qui crie, qui hurle sa peine, et les gens, le rabroué, ne voulaient pas qu'il crie, ne voulaient pas qu'il dérange le maître, qu'il n'arrête le cortège de la vie, quoi. Hein, course folle, hein, dans laquelle nous sommes, dans laquelle j'étais, j'avançais vite, tout allait se construire un peu ma vie autour de ce que je pouvais réussir, de mes réalisations plus ou moins positives, quoi. Et je l'ai oublié, lui, en fait. Je n'avais pas le droit de tendre la main. Je le rabrouillais. Tu te tais, quoi. Toi, tu restes derrière, hein. Je veux pas qu'on montre que t'es faible, que t'as besoin de quoi que soit, que tu souffres. Purée, maintenant, il faut que je t'aime, pauvre aveugle. Et ça a tout changé. Ça m'a permis de comprendre, oui, en fait, je n'avais pas accepté d'être aveugle. J'ai accepté de l'accepter, c'est tout. Mais je n'avais pas accepté, je n'avais pas vraiment intérêt que cet aveugle-là a besoin, un jour qu'on le guide, un jour de machin, tout, je pouvais tout faire par moi-même. C'était la course à la réussite et je me dis, de toute façon, un aveugle, il faut qu'il soit beau et riche et puis c'est terminé. Il ne faut pas qu'il montre une faiblesse quelconque. Une défaillance quelconque, etc. Et Charlotte, là, vous venez de verser quelques larmes sur une souffrance que vous avez. Et en disant, voilà, il y a un déni que l'autre. Je veux bien. Je l'entends. Et c'est fort, c'est douloureux, c'est déchirant. C'est pas par égoïsme, parce que je ne peux pas sortir de mon malheur et de ma souffrance si je n'ai pas un regard aimant à qui je suis. Et ça a été pour moi la révélation la plus lumineuse de mon histoire de pardon et de bonheur. Et parfois, je m'oublie, je ne prends pas soin, et je sens que j'ai failli. Et je reprends un peu ce soin de moi-même pour pouvoir continuer à prendre soin des autres. Et parfois, c'est un processus un petit peu... Je veux dire, c'est comme un couple d'amoureux, jeunes amoureux, les fiancés. On les voit, ils s'enferment sur eux-mêmes, ils oublient le monde autour, il n'y a plus rien qui existe, plus rien. Voilà, ce regard d'amour qui nous fait un petit peu, entre guillemets, oublier le reste, et surtout le mal qu'il y a dans notre vie, pour pouvoir grandir en amour, déjà pour soi-même, pour pouvoir sortir de ça, hein, par la bonne porte. Quand même, bon, qu'est-ce qui fait que tu te sens tu accordes trop vite ta confiance, c'est quoi le truc? Et donc, la colère monte. Et quand je sens ça, moi, je m'accroche à mon chapelet. Tout de suite, je sens que, humainement, ça m'échappe. Et je peux être en colère. Et si je suis en colère, je peux devenir violent. Et je n'avais plus envie d'être violent. Donc, je m'accroche à mon chapelet, et puis j'égrène mon chapelet. Mais bêtement, hein, ça se refroidisse. Avec les moteurs qui s'en battent, ou Voilà, le cheval qui se cabre et tout. Tranquille, il faut y aller doucement pour aller au trot, puis après on descend pas et hop, on s'arrête. Et moi, ça s'emballe vite. Hein. Donc je m'accroche au chapelet, je m'en vais à la prière tout de suite et je gère ma colère. Parce que c'est elle qui fait mal, en fait. Qu'est-ce qui nous fait mal? Chaque fois qu'on est en colère, qu'on peste, ça. C'est pas les autres qui nous font du mal, je viens de dire, bon, oui, ça peut, il peut y avoir des accidents, un peu de trucs, mais si on est vigilant, tout ça, on peut éviter ce mal. On peut passer. Ok, ça arrive, des moments de faiblesse, on en a tous, et on s'en prend plein la figure. J'en ai pris. D'ailleurs, ça se voit. Ok, bon, ça. Entre les combats où j'ai échappé à la mort et cette voiture piégée où je m'attendais à rien et je pouvais rien faire, bah oui, voilà, c'est le destin. Non, il y a eu des gens qui ont voulu faire du mal et parmi ces gens qui ont été touchés par le mal, c'est moi. Okay. Je reste là-dedans? Je suis la victime absolue, éternelle, ou je vais sortir et je vais être sauvé et je veux me libérer de cela pour être en paix, pour construire ma vie différemment. Donc les situations qui nous rappellent et qui nous ramènent à ce que nous sommes intérieurement fragiles, bah, il faut trouver les points d'appui, les garde-fous pour sortir de ça. Et vite. Et si j'arrive pas tout seul, bon, voilà, une bonne confession, un bon accompagnement, il ne faut pas rester seul. Ça, c'est évident. Il ne faut pas rester seul. Un chrétien seul est un chrétien en danger, surtout quand il est en fragilité. Surtout face au mal. On ne sait pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous, chrétiens du Liban, on a perdu la guerre parce qu'un chrétien, normalement, il ne sait pas faire la guerre. C'est ainsi. Donc les situations, oui, bah, il faut essayer d'éviter le maximum de situations qui nous rappellent cela. Et moi, c'est pareil. Je travaille à ce que je sois entouré de gens fiables le plus possible. Ça m'arrive, ça m'échappe encore. Avant, c'était 9 fois sur 10. Maintenant, c'est 1 fois sur 10. Le trop d'empathie, je vais, comme il est fragile, je vais lui faire confiance, il arrive... Je le sens, je le sais. Et cela, il y a un indicateur très fort. Est-ce que je me sens en paix ou pas? Si ça trouble, si ça s'agite, si ça tremble, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il faut vite que je règle la situation. Et pour les petites, comme pour les grandes choses. Si je suis en paix, ça s'appelle le discernement. Et si je n'y arrive pas à discerner tout seul, il y a tous les outils pour cela, dans l'Église et autour de l'Église. Plein, plein d'outils pour cela. La paix. La paix. Alors la paix, c'est l'absence de guerre, n'est-ce pas? C'est pas la trêve. C'est l'absence de guerre. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de situations où nous sommes vraiment en paix dans notre monde géopolitique, socio-économique, etc. Les entreprises se font la guerre, la concurrence, ils appellent ça, hein, pour prendre des parts de marché, conquérir des parts de marché, pour aller... Tous des éléments de langage... je dirais, martiaux, existent dans notre vie quotidienne, partout. La paix réelle, durable, vraie, elle nous a été donnée il y a 2000 ans. Jésus, après sa résurrection, il est arrivé au Cénacle, où il y avait ses disciples, sa mère, ils étaient... caché là, les fenêtres bien barricadées. Ça tremble. Paf, il est là. Il regarde d'où il est rentré, celui-là. Qu'est-ce qu'il leur dit? Est-ce que vous vous souvenez? Ouais, ça c'est facile. Après? Hein? Non, non, non. Une phrase, il a parlé. La paix soit avec vous. Hein? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est moi. Trois fois. La paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que c'est moi. C'est moi. En dehors de lui, nous avons très peur. Peur du monde. Ah, le monde va pas bien. Ah, le... la cérémonie de l'ouverture de machin nous a insultés. Le Charlie Hebdo, il fait un truc sur... Mais qu'est-ce qu'on a à faire de tout cela? Mais depuis toujours, nous sommes agressés. Depuis le début de l'humanité, le croyant a été agressé. Celui qui a dit oui, ben, il est agressé par celui qui a dit non. Normal. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? Heureux êtes-vous si on vous insulte, on vous calomnie, on dit faussement des choses contre vous, des béatitudes. Heureux êtes-vous, bien heureux. Il nous a mis au rang des saints parce que il croit que nous pouvons comprendre ce qu'il est, lui, ce qu'il a subi, parce qu'on l'a fait à votre maître. Pourquoi on ne le fera pas à vous? Parce que toi, tu veux être chrétien et tu veux marcher dans la rue et on va te regarder en se mettant à genoux devant toi, en disant « Ah, bravo! Ah, le chrétien qui est en train de passer! Ah, lui, il est impeccable! Lui, parfait, sa vie, impeccable! Et en plus, il est chrétien, il a une doctrine, tu me dis que ce que je fais moi est mauvais. Donc, je vais l'accueillir, sympa, les bras ouverts. Hein. Je vis dans le péché. Et parce qu'il est chrétien, il me le montre en plus par son attitude, par son église à la noix là, qui a la morale, dit ce qui est bien, ce qui est pas bien, en tout cas, qui doit me dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est mal, ce qui n'est pas mal. Non, quand même, je sais tout moi. Et lui, toi, chrétien, toi, tu vas m'apprendre tout ça? Allez, va rentre chez toi. T'as rien à me dire. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Comment je peux le faire? Après les attentats du Bataclan, je marchais dans la rue avec ma fille, qui avait 6 ans. Et il y avait des... Elle savait lire, déjà. Il y avait des pancartes dans les rues, sur les magasins. Attention, vigipirate, terrorisme, machin. Si vous voyez un objet suspect, machin. C'est ça, puis ces trucs, je lui explique, c'est les attentats, machin, comme si c'est passé à Bataclan. Ils avaient entendu, parce que les enfants, ils captent tout. Nous habitons dans une petite bourgade de la banlieue parisienne qui s'appelle Saint-Germain-en-Laye. Vous voyez, petite ville très tranquille. Et Isor me dit, papa, est-ce qu'il pourrait y avoir des attentats à Saint-Germain-en-Laye? Je dis oui, il peut y avoir des attentats à Saint-Germain-en-Laye. Parce que vous voyez les trucs partout, ces pancartes de vigilance. On continue à marcher et elle me dit, papa, est-ce qu'on peut en mourir d'un attentat à Saint-Germain-en-Laye? Je ne vais pas lui mentir. Oui, papa, c'est un attentat. Ça peut faire du mal, on peut en mourir. Fier de moi, avoir donné la réponse à ma petite fille, que je suis dans la vérité. Continuons à marcher, et hop, elle me bloque. Elle se retourne, en me regardant de bas en haut, parce que j'étais plus grand qu'elle. Et papa, que fais-tu, toi, pour que cela n'arrive pas? Je me baisse pour être à sa hauteur, je la prends dans mes bras. J'avais les larmes qui coulaient, je dis, je te promets, ma fille, je ferai tout mon possible pour que cela n'arrive pas. Alors, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que je fais dans ma vie, moi, pour être un artisan de paix? Ou qu'est-ce qui m'empêche de l'être? Quelle pierre je mets à l'édifice de ce royaume de paix auquel Jésus nous a appelés? Et pourquoi je n'arrive pas à poser cette pierre? Quand je parle aux jeunes, je leur demande s'ils savent quel est le projet de Dieu pour eux. S'ils ont une idée de ce que est le projet de Dieu sur eux ou pour eux. Ils réfléchissent, qu'on a donné des idées. Mais tout ça, c'est du blabla. Dieu a un projet pour chacun de nous, petits ou grands, jeunes ou vieux, femmes ou hommes, noirs ou blancs. C'est le même projet pour chacun de nous. Le même. C'est notre bonheur. Et tout l'enseignement de Jésus, tout son enseignement vient de ce regard qu'il a eu sur le jeune homme riche. Vous en souvenez? Non. Un jeune homme ou un docteur de la loi, quelqu'un de très bonne famille, très bien habillé, riche, propre. Certainement qu'il a une loge VIP au temple. Il vient, il discute avec Jésus. Que faut-il faire pour accéder au royaume? Pour être heureux, n'est-ce pas? Que faut-il faire? Jésus lui dit, tu as les lois, les prophètes, la loi, les commandements, on dit cela, je l'observe depuis mon jeune âge. Je vais tous les dimanches à la messe, j'étais scout, je participe à toutes les associations catholiques, et je donne aux pauvres 1% pour avoir des reçus fiscaux. Je fais des retraites spirituelles. J'amène mes enfants en voyage à l'île Maurice et aux Bahamas. J'ai les moyens, je vis, je fais tout ce qu'il faut bien. Pas de soucis. Mais j'y arrive pas. Il me manque quelque chose. Et là, c'est quoi votre prénom? Claude. Jésus, il discutait avec lui, le regarda. Jésus le regarda et l'aima. Et lui dit, par amour, je te demande, va vendre tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Donne-le et viens et suis-moi. Va, vends tout ce que tu as, tout. Il n'a pas dit « jette-le à la mer ou brûle-le au feu, dilapide-le comme a fait l'enfant prodigue. Donne-le aux pauvres. » Il lui a donné ce pouvoir de faire le bien. Énorme. Fais le bien avec ce que tu possèdes. Fais-le en mon nom. Rien d'autre. Ne t'invente pas d'autres dieux. Ne te raconte pas d'histoire abracadabrante, et ne suis pas des faux prophètes. Il nous l'a dit, hein. Attention, des faux prophètes. Des mauvaises causes. Il n'y en a qu'une qui mène au salut. C'est l'Église. C'est mon Église, lui a dit Abia. C'est mon Église. Sur toi, je bâtirai mon Église et elle aura les clés du ciel du bonheur. Et tu veux être heureux? Oui, ce que je te dis. Faites ce qu'il vous dit. Ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique, ce sont mes frères, ma mère, mes sœurs. Rien d'autre. Mettre en pratique. Donc ce projet est le même. Jésus le regarda, l'aima, ce projet de bonheur qu'il a pour chacun de nous, il vient par cette dépossession de ce que nous avons pour acquérir ce qui est inestimable, cette richesse énorme, notre foi, pour faire la charité. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Saint Paul. J'ai beau parler les langues de toute la terre. J'ai beau posséder tout ce que je veux. J'ai beau avoir tous les charismes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Une cymbale qui retentit dans le vide. Ping ! On n'oublie rien. L'amour. Ce regard-là qui fait que, oui, j'apporte ma pierre. Si je peux te regarder, toi, qui a priori, tu es mon ennemi, mon adversaire, mon traître, mon offenseur, comme Jésus a regardé le centurion qui était en train de lui planter la lance dans le cœur, et puis il a déversé sur lui tout son amour, a jailli de son cœur de l'eau et du sang. C'est la vie. Il se met à genoux, il dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Et il est parti un peu tristouné, le jeune homme. Parce qu'il avait beaucoup de bien. En tout cas, il était attaché à beaucoup de choses. On ne sait pas ce qu'il a fait après, mais sur le moment, c'était dur. Et Jésus répond à ses disciples qui lui disent, mais alors, si les riches ne rentrent pas dans le royaume, où ce leur est difficile, qui va rentrer? Alors, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Le pire des méchants, des pécheurs, sera avant vous au ciel. Il leur a dit dans le même évangile, alors, les prostituées et les pécheurs seront avant vous au ciel. Vous précéderont au ciel. Ils nous précèdent, ils vous précéderont. Ils nous précèdent au ciel, les prostituées et les pécheurs. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Jusqu'où il est allé, voyez ? C'est-à-dire à ses apôtres. Ouais. Que les malfrats et les putes seront avant eux au ciel. Il y a une conversion. Qu'est-ce qui m'empêche de poser cette pierre ? Ou bien, laquelle j'ai envie de poser ? Et quoi est-ce que je fais aussi dans ma vie pour cette paix-là ? Le pardon est inconditionnel. C'est pas moi qui dis, hein. Jésus. Tu veux pardonner, tu mets pas de conditions. Je te pardonne si. Non. Il n'y a pas de si. Mais. Il n'y a pas de mais. C'est gratuit. C'est libre. Et c'est fort. Mais c'est humble. Ouais, parfois, ça demande de l'humilité. Oui, on peut. On a cet orgueil-là, ce papa de tous les péchés, hein, en tout cas des sept capitaux, il est là. Hein. Et puis, t'as l'orgueil, le reste vient, la colère, le truc, la machin, tous, ils sont là. Hein, à plusieurs, tac, tac, ils arrivent. Je pense que c'est aussi le propre de l'homme, son orgueil de vouloir savoir la vérité et de d'être un dieu à la place de Dieu, calife à la place du calife, nous on dit pour rigoler, mais on veut se prendre pour des dieux. Hein, donc on se prend ce pouvoir. On l'a, on est des êtres divins. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme soit Dieu. Il nous a donné ce pouvoir. Si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, Dieu leur pardonnera leurs péchés. Si vous les retenez, Dieu les retient. Donc, attention, dans ce pouvoir-là, on peut retenir quelqu'un dans le péché aussi, parfois. On l'empêche de se libérer aussi, de couper ses chaînes dans lesquelles il est enfermé, cette cage-là, pour pouvoir s'en sortir. Parfois, ce pouvoir-là peut libérer quelqu'un aussi de son addiction, de son mauvais penchant, de ses mauvaises attitudes, de ses... Oui. Puis à répétition, à la fin, la goutte d'eau, elle va percer et elle va rentrer dans la terre pour irriguer et puis faire germer les graines qui sont enfouies là. Ces graines d'amour. Oui, cette paix, vous voyez, il n'y a pas de chemin s'il n'y a pas de pardon. C'est évident. Et ça, c'est une force du chrétien catholique, particulièrement avec le sacrement de réconciliation qui nous est donné. Parce qu'on t'en demande le pardon de Dieu, on est forcément confronté. Je ne peux pas imaginer un prêtre dire « Oui, moi je te pardonne même si t'as pas pardonné. » Parce que notre Père dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc, première condition qu'il nous met pour qu'on soit pardonné, c'est qu'on pardonne nous-mêmes. Et ça, c'est un pouvoir qu'il nous donne extraordinaire. On demande à Dieu d'être comme nous, de nous ressembler dans nos attitudes, dans nos gestes. C'est énorme. Et délivre-nous du mal. Éloigne de nous ce mal. Évidemment, donc on est des êtres intelligents, nous pouvons éviter le mal. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, elle est toujours là. Lui-même a été tenté. Donc, parfois, nous, à vouloir bien faire ou de mal faire, d'éviter le, en tout cas de mal faire, on ne fait rien. Et l'immobilisme, le neutre, Dieu a dit, je le vomis. C'est fort, hein? Les tièdes. Je vomis les tièdes. On ne peut pas être chrétien et tiède. Et comme disait le père hier, on ne peut pas être chrétien et ne pas être joyeux. Un chrétien doit être chaud et heureux, joyeux. Quitte à ce qu'on le prend pour un bienheureux, entre guillemets, péjoratif. Hein. C'est pas grave. Notre religion n'est pas une religion des faibles. C'est tout le contraire. Range ton épée. Si Dieu veut, mon père veut me défendre, il sait envoyer ses armées. Il n'y a pas de problème. Il y a une armée d'anges qui nous protège. Range ton épée. Pour l'instant, c'est pas le moment. Mais, il y avait une épée. Il n'avait pas dit, tu ne te balades pas avec une épée. Il y avait une épée. Les brigands, moi, à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, nous, on a la police, l'armée. On a mis des institutions militaires, policières, pour nous séparer les uns des autres, tellement qu'on est imbéciles et on peut se taper dessus. Moi, mon rêve, c'est qu'on n'en ait plus besoin. La paix soit avec vous. N'ayez pas peur. C'est la peur qui vient hanter nos cœurs et qu'on réagisse de manière violente, qu'on appelle la défense. C'est pas une réponse. La défense violente, c'est pas une réponse. Comment je peux éviter le mal? Comment je peux empêcher l'autre de faire le mal? Ça, c'est la force du chrétien. Parce qu'il est artisan de paix. Il soigne et tout ça. C'est pas juste qu'il est le SAMU, hein, ni le secours catholique. Il peut être dans la politique, dans l'économique. Un chrétien, il est chrétien partout. Pas juste à la maison avec ses enfants, il faut se mettre à genoux, faire le chapelet le soir avant d'aller se coucher, et le lendemain, il va au boulot, il massacre ses collaborateurs, et c'est pas possible. Cette paix durable à laquelle Jésus nous appelait, il n'y en a qu'une d'ailleurs, c'est la seule, la paix soit avec vous, c'est ma paix que je vous donne. Mais je ne vous la donne pas à la manière du monde. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Recevez-la comme je vous la donne. Ça veut dire, avec l'Esprit Saint, quittez vos peurs. Allez jusqu'à ne pas avoir peur de la mort. Un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Pour être en paix sur cette terre, c'est ce qui nous fait le plus peur, hein, d'ailleurs, la mort, n'est-ce pas? Le manque, le truc, tout est lié. Mais c'est la mort, c'est de mourir à quelque chose, à un confort, à la santé, etc. Et alors pourquoi? Je veux dire, oui, j'ai construit dans ma vie un système où j'ai de moins en moins peur, même des choses qui peuvent se passer. Tout peut se gérer. Il n'y a rien qui est grave, j'allais dire. Tout est important. Attention, tout est important. Petite et grande chose. Mais rien n'est grave, quoi. Rien qui doit entamer mon bonheur et m'empêcher d'aller construire avec mes frères et sœurs l'édifice de Dieu. D'être un comme nous appelle le Christ. Je veux qu'il soit un comme toi et moi. Nous sommes un. C'est le thème de cette session. Cette unité forte à laquelle nous sommes appelés, nous, qui sommes les individualistes du monde occidental. Nous sommes dans une société individualiste, mais est-ce qu'on est obligé d'accepter cela? Est-ce qu'on est obligé de vivre vraiment de façon individualiste? Égoïste? Chacun pour soi, Dieu pour tous? Ça rentre dans le langage commun. Mais non, on est les uns pour les autres. Et si je peux compter sur toi, tu peux compter sur moi. Et si moi, je ne peux pas compter sur toi, sur qui je peux compter alors? Non, on n'est pas du tout sur des mêmes logiciels avec ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent. Et alors, comment on peut se protéger de cela? Est-ce qu'on doit avoir peur et tout subir et tout accepter? Non. Moi, je suis contre la guerre. Je peux le dire. J'ai le droit de le dire. Je suis contre les terrorismes. Je suis une victime du terrorisme. Et il y a eu un attentat le 7 octobre. Malheureux. Catastrophique. Abject. Fallait-il répondre de la manière qu'on voit là? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Mais on regarde et on ne dit rien. Mais on a peur de quoi? D'être traité de antisémite? Mais est-ce qu'un juif, excusez-moi de le dire comme ça, doit être violent et il a le droit de l'être parce qu'il est juif? Mais non. Comme un chrétien n'a pas le droit de l'être, comme un musulman n'a pas le droit de l'être. Cette violence est inacceptable. Les missiles russes qui devaient arriver sur Paris pour nous anéantir tous. Moi, j'ai eu la réponse par ma petite dernière. Quand elle a vu que j'allais pas bien, j'avais le visage un peu sombre. Qu'est-ce qui se passe, papa? Je dis, écoute, les Russes sont rentrés en Ukraine et puis il y a la peur de la guerre. Puis ils ont menacé d'envoyer des bombes nucléaires et machin. C'est quoi, papa, bombe nucléaire? Je lui ai expliqué. C'est une bombe qui arrive, on est tous évaporés là. Ah oui, c'est vrai, papa, on disparaît tous. Ouais, comme ça, en une fraction de seconde, on n'est plus là. Oh là là, zut, papa, faut que je te laisse, je dois aller finir ma série de schtroumpfs avant que la bombe arrive. Arrêtons de nous projeter dans ce qui va arriver comme malheur demain, la fin du monde. Oh, le monde va mal, et c'est la fin du monde, et tout est fini. On n'a même pas commencé encore. Qu'est-ce qui est tout fini? Soyez prêts. Préparez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est moi. Quand tu es le Christ, comment je peux avoir peur? Et pourquoi dois-je avoir peur? De qui dois-je avoir peur? La mort, il l'a vaincue. Si j'y crois. A priori, vous croyez, non? Le Christ est ressuscité. Vraiment ressuscité, il est vivant. Alors quoi, j'ai peur? Il a terrassé la mort. Il a ressuscité des morts. Il a pardonné les péchés sur la croix, juste avant de livrer son dernier souffle. Que se passe-t-il? Deux conversions radicales. Le bon larron, il dit, oh, souviens-toi de moi ce soir quand tu seras dans ton royaume. Il clique sur la souris, ping! Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Ping! L'autre là, ouh! Il pèse le cœur et paf! Jésus le regarde. L'autre, il voit qu'il l'aimait. Il part. Direct. Il rentre dans son cœur. Il voit la fente et hop! Il se jette. Il dit, celui-ci était le Fils de Dieu. Conversion radicale. Le centurion! Pas n'importe qui. Et comme ça, pourquoi je dois avoir peur? Sur la croix, il était encore en train de faire le job. Alors ressuscité, vous imaginez? Mais cloué, flagellé, déchiqueté, malmené, en train de mourir, il convertit. Et nous, vivants, debout, beaux, croyants, etc., et on a peur de quoi? Qu'est-ce qu'on va montrer au monde? Quel message j'envoie au monde? Quelle vie j'ai envie de vivre? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Ça, j'y crois pas beaucoup. Il y a chaque religion, une parcelle. Il y a une vérité. C'est celle-là. C'est pas que je veux dire que les autres n'existent pas. Mais ils veulent, ils s'approchent du Christ. Est-ce que je suis le visage de celui qui n'a pas peur? Celui qui rayonne. Du Christ ressuscité. Est-ce que je peux être transfiguré par cet amour-là pour rayonner au monde l'amour du Christ? Sa paix. La paix soit avec vous. Alors aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous. Saint Paul nous demande dans les Éphésiens. Soyez indulgents les uns avec les autres. Pardonnez-vous comme Jésus vous a pardonné. Soyez patients les uns envers les autres. La technique existe. Indulgence, patience, persévérance, les vertus théologales, cardinales. Voilà. Oui. La foi, l'espérance, la charité. Prudence, force, courage, etc. Oui. On les a, on a les clés. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi chercher chez Bouddha, chez le, je sais pas quoi, chez Freud, elles sont là. Et on s'appuie dessus. Et on comprend de mieux en mieux le fonctionnement psychique de l'homme pour comprendre son fonctionnement théologique, spirituel. Pour dire en face de moi, il y a une vie. Cette vie, c'est Dieu. En moi, en toi, en chacun de nous. Et si on aime l'autre comme Jésus nous aime ou comme Jésus l'aime, il n'y a pas de problème. Qu'il soit musulman, athée, homosexuel, trans, tout ça. Il est aimé de Dieu. Et ça, j'ai rien à dire là-dessus. C'est une créature de Dieu. Après, ce que je fais, je fais le mal, je fais pas le mal, le bien, le mal, ça on le connaît. Et on arrête de relativiser. Dans la religion chrétienne, dans la quête de paix, il n'y a pas de relativisme. Il n'y a pas une cause qui vaut plus que d'autres, il n'y a pas un mal qui est moindre que l'autre. Soit c'est bien, soit c'est mal. Point. Donc choisissons cette route qui nous mène vers la vie, qui est le Seigneur Jésus. Et cette quête de paix, qui est aujourd'hui mon engagement de plus en plus fort dans ma vie de tous les jours, dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, dans ma vie fraternelle, dans ma vie professionnelle, elle se concrétise. Et on a fondé avec des amis une œuvre qui s'appelle Phoenix. Vous avez dû voir sur le carnet. C'est pas Summer de paix, c'est pas l'été de paix, c'est Summer de paix. Nous semons ces graines de paix partout, avec des conférences, avec des rencontres, avec des messes, avec des prédications, avec des projets de charité. Et notre logo, notre police, comme on dit, c'est une phrase qui m'est venue un jour, j'étais interviewé par un journaliste, Catio, il demande quelle est, choisissez une charité, une vertu, et j'ai dit la charité. Et il me dit, pourquoi la charité? Et vraiment, sans réfléchir, je réponds, parce que la charité fait que la foi devient espérance. La charité fait que la foi devient espérance. Et moi, aujourd'hui, en étant un amoureux de la vie, un amoureux de l'autre, un chercheur de paix, un semeur de paix, je ne peux qu'être charitable pour que ma foi vraiment me donne cette espérance que c'est possible, que la paix règne. Si ce règne de paix auquel Jésus nous a appelés, il nous a promis, il nous a donné, reste vivant sur cette terre, malgré tout ce qu'on voit comme feu, comme destruction, tout cela, du moment qu'il y a des chrétiens qui prient, qui s'aiment, qui font la charité, avec une foi exemplaire et une espérance qui déplace les limites du monde. Quand je dis les limites du monde, ça veut dire ça nous ouvre l'espérance, hein, ce qui nous ouvre les portes du ciel. Ça veut dire la vie éternelle. Mais moi, mes amis, j'ai envie. Et je construis mon chemin de vie en travaillant sur ma sainteté. Le Seigneur veut que nous soyons et que nous devenions des saints parce qu'il nous aime tant qu'il a envie de nous retrouver au paradis, auprès de lui. Merci.